L'expression de la sagesse dans le monde, c'est la compassion. Et c'est vrai que nous méditons pour ça, pour que ce cœur de la compassion soit disponible. Un cœur ouvert, c'est ce qu'il y a de meilleur. Un cœur abandonné, parce qu'il y a ce lâcher-prise du moi. En même temps, c'est une humilité, c'est une simplicité et une abondance. Donc, il y a d'une certaine manière un équilibre parfait. La compassion, c'est d'une part un cœur sensible à la vie, en moi, dans l'autre, dans le monde, et d'autre part un côté inébranlable. Le cœur est sensible et en même temps totalement ancré. Et pourquoi est-ce qu'il est ancré? C'est parce que il a travaillé, il a cultivé l'esprit et qu'il sait qu'il n'est pas l'expérience. Je ne suis pas l'expérience, ni en moi, ni hors de moi. Donc, d'une certaine manière, nous nous dégageons de Mara. Certains emploient ce mot que j'aime bien. Mara, c'est une bonne Mara, même si elle est terrible. Et Mara, c'est ce qui bloque, ce qui enferme, ce qui opprime, qui met mal à l'aise, qui impose des limites. Et que nous pouvons rencontrer. La cause primaire ou la première cause de l'expérience douloureuse, qu'elle soit liée à une situation extérieure, à une souffrance pour autrui ou à ma propre souffrance personnelle, on pourrait dire que c'est le karma. C'est ce sens du moi. Un moi est là et il a un karma. Et quelquefois, ça arrive. Et les causes secondaires, ce sont tout ce que nous pouvons nommer en termes d'énergie perturbatrice ou de qualité insatisfaisante dans le présent. La cause première, c'est que le moi s'en saisit. Pourquoi est-ce que nous saisissons certaines choses et pas d'autres? Pourquoi est-ce que celui-ci rencontre quelqu'un, ça lui crée une monstre aversion, l'autre rencontre la même personne, il adore. Intéressant. Nous avons ces tendances karmiques qui sont là et qui sont la cause première. Et la cause secondaire, bien sûr, c'est tout ce que nous pouvons voir et travailler. Je vais vous lire quelque chose juste pour que vous ne compreniez pas. C'est excellent de ne pas comprendre. Parce qu'au fond, on comprend rien. Ainsi, tu ne seras pas en ça. C'est le Bouddha qui a dit. Hein? Ainsi, tu ne seras pas en ça. Et n'étant pas en ça, tu ne seras ni ici, ni là, ni au milieu. Juste ça est la fin de la souffrance. C'est ça, se désengager de l'emprise du moi. Ainsi, tu ne seras pas en ça, et n'étant pas en ça, tu ne seras ni ici, ni là, ni au milieu. Juste ça, c'est la fin de la souffrance. À exercer. Et nous pouvons développer la compassion par le vide, par ce que je vous lis là, et nous pouvons le développer par la chaleur du cœur. Et c'est ça que j'aimerais vous partager ce soir. Nous avons beaucoup parlé de la sagesse. Là, on peut parler de ses qualités. Le Bouddha a parlé de 4 énergies. La bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité. Nous les avons exercées dans l'exercice de métta l'après-midi. Et nous pouvons l'approfondir un peu. D'abord, l'empathie. Rendre cette qualité empathique consciente. C'est-à-dire, quand elle est là, elle est très souvent là. Est-ce que nous pouvons la nommer? Est-ce que nous pouvons la reconnaître? Elle est là quand il y a la patience. Elle est là quand nous faisons tranquillement, calmement notre karma yoga. Dans la vie de tous les jours, elle est souvent là dans ces petits moments de complicité ou de générosité, dans l'émerveillement par rapport à la nature, lorsque nous sommes devant le feu. Ah, il y a cette empathie. Et nous pouvons sentir ce que ça fait dans le corps, dans le cœur, dans le mental et dans la conscience. Et vraiment le goûter. Si on avait le temps, on pourrait faire un tour pour que chacun nous dise une expérience d'empathie, ce serait chouette. Ma foi, c'est une retraite en silence. On renonce, c'est aussi une très belle qualité. Et l'empathie, si nous l'avons en conscience et si l'esprit est cultivé, c'est quelque chose qui peut toujours être là. Il y a plusieurs témoignages qui viennent maintenant en fin de retraite pour dire qu'un instant de tristesse conscientisée, c'est de la joie, c'est de l'empathie, il y a cette qualité. Un instant de confusion, ah, ça fait du bien. En fait, c'est douloureux si je regarde le monde, le samsara, mais si je me tourne vers la pleine conscience, waouh, c'est un émerveillement, l'empathie est là. Quand on demande au Dalai Lama quel est le meilleur moment de votre vie, il regarde la personne interloquée puis répond, mais maintenant. Et nous pouvons voir comment cette empathie se crée, de même que nous pouvons voir comment la pensée obsessionnelle émerge. Il y a un contact, une perception douloureuse avec une interprétation qui est liée à ça, et hop, ça construit. Nous pouvons voir comment, avec un contact agréable, prenons le feu, je suis devant le feu, c'est chaud, c'est beau, il y a toutes ces pensées, waouh, c'est pas souvent, on est chanceux, gratitude. C'est pareil, contact, perception, ressenti et construction, mais ce sont des constructions agréables. Et le but de la méditation, d'une certaine manière, c'est de pouvoir avoir le choix. Tout est création, mais qu'est-ce que je veux créer? C'est ça la question. Dans le Dhammapada, il est dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Nous sommes construits par nos pensées. Ce sont elles qui nous créent. Avec nos pensées, nous créons le monde. Si vous parlez ou agissez avec une pensée négative, les problèmes vont vous poursuivre comme la roue suit le bœuf qui tire le chariot. Si vous pensez ou agissez avec une pensée harmonieuse, le bonheur va vous suivre comme votre propre ombre. » Elle ne va jamais vous abandonner. Tout est création. Dieu, le monde, tout. Moi, c'est une création, moi. La deuxième qualité du cœur, c'est ce qu'on appelle, le mot compassion, c'est le mot global, mais la compassion plus particulièrement, c'est la sensibilité d'un cœur à la souffrance sans contraction. C'est cette ouverture à la première vérité, c'est vrai. J'ai assez médité pour le savoir. La vie n'est pas parfaite, ni en moi, ni chez l'autre, ni dans le monde. Et d'abord, nous l'entendons. Ça paraît intéressant. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais tellement soulagée. Je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me permet de ne pas tout le temps culpabiliser, de ne pas vouloir être parfaite, de ne pas... Ah, c'était bon, quoi. Mais ce n'était pas réalisé du tout. Et alors, on entend d'abord, et puis après, on commence à comprendre. Hein. Comprendre, on prend avec. Ah ouais, ok. Et ces petits moments où nous réalisons que ce qui fait souffrir, c'est au fond pas l'expérience douloureuse, c'est la contraction que je crée contre elle et le pouvoir que je lui donne. Quand je commence à réaliser et à vraiment comprendre, ok, il y a une émotion perturbatrice, il y a de la confusion, c'est vrai, c'est pas agréable, mais je le vois. Ça fait toute la différence. Et j'attends, tranquille. J'ai pas besoin de paniquer et de me débattre. Et alors, quand nous avons fait ça longtemps, plusieurs fois, parce que nous sommes toujours vérifiés plus profondément, une fois qu'on a réussi à le faire avec les choses qui nous paraissent douloureuses, mais enfin bon, ok, ah voilà la grosse tuile, ah la vraie tuile. La santé, ou un de nos proches, ou de ces choses qui sont... On était tranquille, puis voilà que ça y est. Et le travail est à refaire. Hein? Nous refaisons le même travail. Parce que c'est toujours étonnant de voir comment, quand ça arrive à l'autre, on est vraiment désolé. Mais enfin, on ne panique pas tellement. Mais quand ça nous arrive à nous, waouh! Donc, être sensible à cette souffrance du monde qui s'exprime parfois en moi, parfois en l'autre. Et abandonner l'envie que ce soit autre. Ça ne veut pas dire ne pas aider, mais ça veut dire ne pas avoir pitié. Ne pas trouver que c'est tellement dommage. Ça, c'est terrible pour la personne qui souffre. En tout cas, moi, je sais que je ne supporte pas. Quelqu'un qui dit, mais ma pauvre. Ça aide en rien. Mais de dire, écoute, ok, c'est vrai, c'est douloureux, j'entends bien, ça fait mal. Mais tu as les forces en toi. Ce n'est pas par hasard. D'une certaine manière, l'aiguillon de la souffrance, c'est ce qui... nous permet d'avancer, je l'ai dit et redit, et je le redis encore, parce que quand nous sommes au cœur de la souffrance, nous oublions. Et nous prenons pour absolument vrai l'expérience. Nous oublions que c'est subjectif. Et dans une retraite, comme le cœur, l'esprit, le corps, tout devient extra-sensible, nous pouvons voir combien ça tourne vite, combien je suis dans l'ancrage, dans quelque chose d'ouvert, de tranquille, et tout à coup une petite chose et paf, waouh. Alors au début nous disons, ah ouais là ça va bien, ah ouais non là alors ça va pas, ça va pas. Et peu à peu, nous nommons simplement. Ok, il y a de la confusion, je suis perdue. Je viens en entretien, oh, ben, écoute, alors là, je suis complètement perdue. Quand quelqu'un vient en me disant ça, je me dis, oh, ben, celui-là, il tient son fil rouge. Et ça demande du courage. Ça demande de beaucoup de tendresse parce que l'orgueil, et quand je dis l'orgueil, je n'ai aucun jugement, ce sens du moi, c'est très très difficile de le faire lâcher. Parce que d'un côté, il a peur, et d'un autre côté, il a tellement besoin d'exister. Donc nous devons venir avec le pardon. Pour cet inaccompli dans l'être, dans tout être. La compassion, c'est vraiment l'expérience humaine partagée. Et quand nous pouvons avoir cette sensibilité à l'autre aussi, c'est une belle tristesse, parce que c'est vrai que le monde souffre, c'est vrai que les gens souffrent. Ok, ils ont en eux le potentiel pour se saisir. Et nous ne sommes pas à leur place. Peut-être en ont-ils un beaucoup plus grand que nous croyons. Mais quand même. La compassion, c'est cette conscience que la misère est là. Et qu'en même temps, il y a ce pouvoir de rédemption. Je me souviens quand, il y a pas mal d'années, j'habitais au château à Corcelles. Et puis, on avait fait une sorte de table ronde, on avait invité des gens, un médecin, un paysan bio. Et puis, on avait invité un médecin politique. La médecine politique, c'est la première fois que j'entendais parler de médecine politique. Et chacun était là pour essayer d'amener quelque chose à ce monde. Et le médecin politique disait que c'était intéressant, jusque dans les années 70, il y a eu cet espoir un peu fou que le progrès allait amener quelque chose à l'humanité. Et à partir des années 70, le progrès a continué. Mais la qualité de vie de l'humanité s'est mise à stagner et puis à diminuer. C'est fini l'espoir du progrès. C'est plutôt le désespoir du progrès. Quoi faire? Ça change, vous vous rendez compte? Dans les années 70, jusque dans les années 70, personne n'avait conscience. Le progrès, ça allait amener, d'une certaine manière, la fin de la souffrance à l'humanité. Mais l'homme est l'homme. Il y a un égoïsme fondamental qui fait que la misère revient, la misère est là. Je reparle du pape François, j'ai trouvé tellement beau. Quand il a été pape, ce qu'il a dit à la foule, c'est « Priez pour moi ». On a bien besoin de demander à chacun de prier pour nous. Parce que nous participons à un mouvement qui est limité et nous sommes tous interconnectés dans ces limites. La joie, c'est la troisième qualité dont le Bouddha a parlé. Elle vient après la compassion parce que elle est d'une certaine manière plus difficile. D'avoir vraiment la joie pour la joie d'autrui, ça demande de ne plus avoir peur de la comparaison, de ne plus être dans l'échec, la peur de l'échec, le besoin de réussite, de ne pas mourir parce qu'on nous blâme, de ne pas dépendre tellement de l'amour de l'autre pour exister. C'est un cœur qui s'oriente vers la reconnaissance, une expansion bienfaisante qui sait dire merci. D'une certaine manière, la joie, ça n'est pas... Bien sûr, selon les personnalités, on est plus ou moins joyeux. Il y a des gens qui sont très joyeux. C'est chouette, ça fait du bien. Mais cette joie-là, c'est plutôt une joie intérieure. C'est cette joie... Il y a cette jolie histoire d'un curé qui demande à ses enfants, aux catéchumènes, qu'est-ce qui brille dans une église ? Alors chacun dit, c'est les cierges, c'est les vitraux quand il y a le soleil. Et puis tout d'un coup, il y a un tout petit qui dit, et puis c'est les yeux des personnes. Cette joie intérieure dans les yeux des personnes. C'est beau. C'est la joie de l'instant, la joie avec l'expérience. Et c'est vrai que dans l'exercice de la méditation, où nous travaillons beaucoup cette comparaison, cette crainte d'être assez, de ne pas être assez, de faire bien, vibration relationnelle de vagues menaces, ou alors au contraire d'attentes démesurées, eh bien, la joie tranquillement vient. Il n'y a plus tellement besoin d'être inquiet. Est-ce que je suis utile ? Est-ce que... Non, l'instant commence à prendre sa place, à être valorisé. C'est ce, quand je dis tenir son fil rouge, c'est un peu ça. Le tremblement existentiel commence à avoir été suffisamment rencontré pour qu'on puisse s'ouvrir à la simplicité, à la fraternité. C'est John Wellwood qui dit... S'il y a une chose que j'ai apprise en 30 ans d'expérience comme psychothérapeute, c'est ceci. Si vous pouvez laisser votre expérience être, ça va relâcher les nœuds et s'ouvrir, menant à une expérience plus profonde, plus enracinée de vous-même. Peu importe combien les émotions peuvent sembler douloureuses ou effrayantes, votre bonne volonté à vous engager à les rencontrer fait croître votre force essentielle, menant à une attitude saine et positive face à la vie. Un esprit qui est cultivé va naturellement vers la lumière. Tout d'un coup, on peut dire, ah ben ouais, c'est vrai. Avant, de bleu, quand même, la vie était dure. Ah bon, maintenant, ah, pas mal. Mais ce n'est pas parce que je le veux de toutes mes forces. On peut bien se le souhaiter dans le métta, mais même si on fait le métta avec aversion, ça fait son travail. Dans une retraite, il y a plein de joie. Cette joie de l'être, cette joie du laisser-faire. Ou du laisser-être. Cette joie de goûter les sens, pur, dans le vu, juste le vu. Quelqu'un me parlait des petites fleurs bleues qu'il y a dans le parc. C'est vrai que ce bleu, ah, il est presque aussi beau que le vert des hêtres. Il n'est pas encore sorti, le vert des hêtres. Et c'est important de se laisser ressourcer par la joie, parce que c'est ce qui crée l'ancrage dans la confiance. Et c'est aussi important de voir combien ça change. quand il y a une expérience, une bonne expérience qui engendre la joie, la goûter pleinement, c'est important. On peut même la faire grandir le plus possible, mais s'y crocher quand ça passe, c'est de la souffrance. Vouloir reproduire, c'est naturel. Mais je veux reproduire juste en explorant. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, ok. Si c'est pas possible, quelle est l'expérience? L'éveil ne veut pas dire la perfection. Si une fois j'arrivais à la conclusion que je ne pourrais jamais retomber dans l'illusion, ce serait le premier signe que j'ai commencé à glisser. Quand nous réalisons pleinement la vérité, la seule chose que nous savons, c'est que nous ne pouvons pas possiblement savoir. Mais nous pouvons savoir que nous ne savons pas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir de certitude. Nous ne pouvons qu'être ouverts. On peut avoir des certitudes, on en a plein. Mais elles sont toujours questionnées, elles sont toujours vérifiées. C'est beau, ça danse. Et puis, la qualité, la dernière qualité, c'est l'équanimité, c'est cet équilibre entre sagesse et ouverture du cœur. Ça s'entraîne dans l'exercice de la méditation en questionnant les préférences, en voyant comment le désagréable entraîne « je n'aime pas », l'agréable entraîne « j'aime ». « Je me croche » est optionnel. Dans l'équanimité, la pleine conscience est établie, elle est totalement à disposition. Il y a cette qualité réceptive à l'intérieur de la nature humaine. Et cette conscience claire de comment établir l'observateur silencieux. L'équanimité, c'est, j'aime bien, c'est Alexandre Jolienne qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le métier d'homme ». L'équanimité, c'est faire tranquillement son métier d'homme. Et au lieu de se demander toujours qu'est-ce que la vie peut m'amener, plutôt retourner la chose et questionner, mais qu'est-ce que la vie veut de moi? Est-ce que je peux répondre? L'équanimité, d'une certaine manière, c'est se mettre au service. Aimer, c'est servir sans s'imposer, servir sans vouloir convertir, servir sans attendre de retour. Les trois sont identiques. C'est tout accueillir avec la même force, la même ferveur, ne pas tenir à ses préférences. Et c'est toujours pareil dans l'équanimité. Nous avons un pied dans chaque monde. Un pied dans le monde des sens, ce qu'on appelle le samsara. Le monde créé. Et puis un pied dans le non-créé. Dans ce qui n'est pas de ce monde. Et nous pouvons vérifier ça. Certains disent, ouais, mais tu parles de Dieu, moi je ne sens pas Dieu. Ok. Nous pouvons savoir le monde créé et le monde incréé avec les formes et l'espace. S'il y avait que des Alains dans cette pièce, il y aurait que des Alains, on verrait plus Alain. Alain existe parce que l'espace existe. Mais nous ne focalisons pas beaucoup sur l'espace. Nous focalisons toujours sur la forme. De même que le son n'existe que parce qu'il y a le silence. Et le créé existe parce qu'il y a l'incréé. Donc quand on parle de Dieu, pour certains, c'est plutôt, ils sont plutôt portés sur l'extérieur. Ils vont plutôt percevoir l'universel, la nature, pour les animistes. La nature est un ressourcement dans le tout autre, qui est important, ou bien l'infini. Ceux qui sont à l'extérieur vont dire l'infini. Ceux qui sont plutôt portés sur l'intérieur vont dire la source, l'être essentiel, la nature de Bouddha en moi, Christ en moi. Et puis ceux qui sont plus portés sur la philosophie vont dire le rien, la vacuité, l'instant. Tout ça, ce sont des synonymes pour ce que nous ne pouvons pas nommer. Chez les musulmans, on n'a pas le droit de dessiner la divinité. C'est dans cette idée-là qu'elle est innommable. Tellement elle est tout. Donc on peut appeler ça le tout, mais on peut appeler ça le rien, parce que c'est un tout qui inclut le rien. Ou un rien qui inclut le tout. Quand on a demandé au Dalai Lama pour son anniversaire, il avait reçu un grand paquet, ses moines lui avaient fait un grand carton emballé d'un joli emballage avec un joli nœud, et puis il a ouvert ça devant ses moines. Il a enlevé le premier paquet, après il a ouvert le carton, il a regardé, puis il a dit « Oh, rien !» C'est juste ce que j'ai toujours voulu avoir. Il y a donc ce temps divin et ce temps humain. J'ai encore une petite histoire à ce sujet. Un jeune homme demande un jour à Dieu, « Que représente un million d'années pour vous ?» Dieu répond, « Un million d'années pour moi, c'est une seule seconde de ton temps. Et que représente un million de francs pour vous ?» demande le jeune. Dieu sourit et dit, « Un million de tes francs, c'est comme un seul centime pour moi. » Le jeune homme reste songeur, puis il prend son courage à deux mains. Et finalement, il demande, « Dieu, est-ce que je pourrais avoir juste un de vos centimes ?» Gentiment, Dieu lui répond, « Bien sûr, attends juste une minute. » L'équanimité, c'est aussi cette conscience que je colore le monde avec mes pensées. Je ne vais pas arrêter de colorer parce que je travaille la pleine conscience et que la sagesse éclot en moi. Je continue de colorer le monde. On ne va pas demander à Pierre de devenir clair et Fabrizio de devenir Nicoline. Nous colorons le monde avec notre personnalité. Alors, quelle est la différence? Nous le savons. Je sais que je colore le monde. Je sais que ce que j'exprime à travers mes pensées est pure création. Je sais que c'est précieux lorsque ces pensées sont porteuses de vérité. Mais en même temps, elles ne sont rien. Je ne suis pas indispensable. Personne n'est indispensable. Alors peut-être ça peut nous rendre un peu tristes. En même temps, c'est drôlement soulageant. Être éveillé, ça n'est pas être différent de ce que nous sommes juste maintenant. Ça, c'est juste être dans une pensée de rêve, dans l'anticipation. Être éveillé, c'est être exactement tel que je suis. Mais en me posant dans l'être, en l'étant vraiment. On avait une fois une journée de méditation en famille et puis un des participants avait son fils qui était avec lui. Et puis on avait posé la question aux enfants, alors tu crois qu'il fait quoi ton papa quand il médite? Tu crois, pourquoi il médite? Puis il y avait le petit Jules qui avait dit, moi je sais, il médite pour être réveillé. Nous sommes tous réveillés, mais est-ce que nous sommes éveillés? Et l'éveil, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le prendre. Il y a ce chemin progressif qui fait que, intuitivement, nous sentons bien qu'il y a du travail. Mais il y a ce chemin immédiat qui fait que juste maintenant, je peux y être. Et j'y suis à chaque fois qu'il y a cette perception que c'est assez. Ok, c'est pas grand-chose, mais c'est assez. C'est assez. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Moi, j'aimerais être heureux. Et j'adore Comte-Sponville quand il dit « C'est fou ce que je serais heureux si j'étais heureux. » C'est ça que nous faisons, hein, souvent. Et nous sommes tellement tristes quand nous sommes malades. Mais qui est-ce qui se réjouit tellement parce qu'il est en bonne santé? Ou s'il est un petit peu malade parce que c'est pas pire? Je vous lis Richard Muss. L'un des grands bons en méditation consiste à devenir conscient de celui qui veut méditer et de celui qui ne veut pas méditer. Parce que derrière celui qui veut ou qui ne veut pas méditer ou autre chose, réside ce que les Bouddhas appellent le corps de désir. Vous pouvez trouver le corps de désir partout et être capable d'observer le corps de désir. Sans le repousser, ni s'y engager ou l'alimenter, c'est le chemin vers la sagesse. La poussée du désir. Il y a désir. On le voit dans la méditation quand on fait une retraite. Désir pour la bonne nourriture qui est là. Désir pour aller marcher bientôt on va aller marcher. Et l'équanimité, c'est aussi cette sagesse qui ouvre à un sens d'appartenance universelle qui fait que je sais que je pourrais être toi. Je sais que la raison pour laquelle quand je dis « moi », je dois constater cette personne-là, Anne-Michel, c'est le résultat de conditions, des conditions. Des conditions karmiques, des conditions génétiques, des conditions sociales, des conditions d'expérience de vie. Tout ça mis ensemble, ça crée Anne-Michel aujourd'hui, ou n'importe lequel d'entre vous. Alors je pourrais être l'autre, il suffirait que j'aie d'autres conditions. Et ça, c'est une réflexion importante pour lâcher prise de la peur relationnelle, de la comparaison, de la peur de ne pas être assez. C'est ce qui permet de vraiment prendre sa place. Ne pas la prendre trop et ne pas la prendre trop peu. La prendre juste. J'aimerais finir avec une parole de Eti Hillesum, qui est cette femme qui a écrit, comment il s'appelle, le bon bouquin d'Eti Hillesum.
Une vie bouleversée.
Ouais. Elle a vécu à Amsterdam, elle a choisi de ne pas émigrer aux États-Unis pour aider ses frères et sœurs juifs qui étaient en train d'être persécutés par Hitler et les nazis. Et elle est restée totalement ouverte à la beauté, tout en vivant des conditions misérables. Et elle dit... En définitive, nous n'avons qu'un seul devoir moral, c'est de préserver de larges plages de paix à l'intérieur de nous-mêmes. Une paix de plus en plus grande est d'en faire profiter les autres. Et plus nous posséderons de paix en nous-mêmes, plus il y en aura dans ce monde agité. Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient. Et ma richesse intérieure est immense. Pouvons prendre juste une ou deux minutes en silence.